Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambet et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, je reçois Clément Chenot, gérant, directeur général et cofondateur du fonds d'investissement Moringa. Clément est un expert forestier et agricole. Il investit dans des sociétés d'agroforesterie en Afrique et en Amérique latine. Dans ce podcast, nous voyageons au Mali, au Bénin, au Togo, au Nicaragua et nous découvrons des plantations de café, d'ananas et de noix de cajou dans lesquelles Clément investit. Nous abordons les sujets de déforestation, de réchauffement climatique, d'érosion des sols, de commerce équitable et surtout, nous apportons des solutions grâce à l'agroforesterie et au circuit court. Si vous buvez du Nespresso, vous découvrirez peut-être l'histoire de votre café. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Clément, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors habituellement, je demande toujours aux invités de commencer par se présenter, mais aujourd'hui, je vais déroger la règle et je voudrais que tu nous expliques un petit peu où on est. Parce qu'on venait vraiment dans un endroit magnifique, on entend les oiseaux, il n'y a que des arbres, on n'entend aucune voiture, vous êtes vraiment dans un endroit magique.
Bonjour Jean-Benoît, alors on est au Jardin Tropical, qui est à Nogent-sur-Marne, à l'est de Paris, et qui est le berceau de l'agronomie tropicale française. À la base, c'était un centre de formation des cadres en agronomie tropicale. Et ensuite, ici a été établi le CIRAD, un grand centre de recherche sur ces thématiques-là, qui maintenant est à Montpellier, mais qui a gardé cette implantation. Et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de structures comme Moringa qui travaillent sur ces sujets d'agronomie et de foresterie tropicale.
Du coup, maintenant, tu peux te présenter, s'il te plaît.
Donc Clément Chenot, je suis cofondateur et directeur général de Moringa Partnership, qui est la société de gestion du fonds Moringa.
Et alors, qu'est-ce que c'est Moringa exactement ?
Donc Moringa, c'est un fonds d'investissement, fonds d'impact, c'est-à-dire que l'on investit dans des sociétés agroforestières en Afrique et en Amérique latine, et notre objectif, c'est de dégager une rentabilité pour nos investisseurs, mais aussi d'avoir des impacts positifs très forts en matière environnementale et sociale.
Donc on va en parler exactement de quels sont les investissements, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que l'agroforesterie ?
Alors l'agroforesterie, donc c'est une pratique agronomique qui combine les arbres avec les cultures et ou de l'élevage. Et en fait, l'objectif, c'est d'optimiser les relations écologiques entre les arbres, entre les cultures et l'élevage, pour avoir des hauts niveaux de rendement, pour produire beaucoup, mais de manière écologique. C'est-à-dire non pas en détruisant les ressources naturelles, mais en les restaurant. Donc c'est en restaurant des sols, en restaurant, stockant du carbone, en restaurant la biodiversité. Donc voilà, c'est une technique pour avoir ces hauts niveaux de rendement, mais de manière écologique. Donc ça s'oppose, on va dire, à l'agriculture conventionnelle. Donc l'agriculture conventionnelle qui a été développée massivement pendant le XXe siècle, qui est une agriculture qui repose sur des produits chimiques, sur de la mécanisation, qui permet aussi d'avoir des hauts niveaux de rendement, mais avec des dégâts beaucoup plus importants sur les ressources naturelles.
Donc vous investissez dans des fermes ?
Pas exactement. Donc c'est plus compliqué que ça. Donc nous, on investit dans des entreprises. Donc la première chose, c'est que l'on est un fonds d'investissement. Donc on prend des participations, on rentre au capital de sociétés agroforestières, comme je l'ai dit, basées en Afrique et en Amérique latine. Ensuite, donc ces entreprises, elles font plusieurs choses. Et elles ont plusieurs piliers. Et chacun de nos investissements, donc on a 10 investissements aujourd'hui, partagent les mêmes caractéristiques. La première, c'est de développer des plantations d'agroforesterie. Donc chacune de ces entreprises, en effet, développe des plantations sur des centaines, voire des milliers d'hectares agroforestières, donc en combinant des arbres avec des cultures. Ça, c'est le premier pilier. Mais en fait, ces entreprises, elles font beaucoup plus. Le deuxième pilier de nos investissements, c'est le pilier social. Donc comme je l'ai dit, on a un objectif d'impact environnemental, mais on a aussi un objectif d'impact social. Et en effet, ces sociétés opèrent dans les zones rurales les plus pauvres du monde. Donc pour nous, il est essentiel que ces plantations agroforestières elles bénéficient vraiment aux communautés locales et aux agriculteurs locaux. Donc typiquement, ce qu'on fait pas, c'est on n'investit pas dans des grandes plantations industrielles. On peut faire des grandes plantations industrielles en agroforesterie, mais il y a une vraie question sur la durabilité, notamment sur l'aspect social de ces plantations-là. Donc nous, on investit dans des sociétés qui travaillent en partenariat avec des centaines, voire des milliers de producteurs qui sont eux-mêmes structurés en associations, en coopératives. C'est un système qui marche très bien en France. On a des coopératives qui marchent très bien et qui fonctionnent très bien. Dans les géographies dans lesquelles ils travaillent, c'est plus compliqué. Donc nous, ces sociétés apportent de l'appui pour structurer ces coopératives. Troisième pilier de nos investissements, la transformation locale. Donc on est un fonds, on a un objectif de rentabilité. Pour être rentable dans l'agriculture et la foresterie, c'est très dur d'être rentable si on se limite au champ. Donc il est essentiel de monter la chaîne de valeur. Notamment, toutes les sociétés dans lesquelles on travaille font au moins de la première transformation, voire de la seconde transformation des produits. Donc toutes ont des usines sur le terrain pour transformer les produits.
C'est quoi de la première ou de la seconde transformation ?
Pour donner un exemple, on a investi au Bénin dans la noix de cajou. Donc la première transformation, c'est le décorticage. Donc on décortique la noix de cajou, on produit une amande blanche non transformée. La seconde transformation, donc Tolaro au Bénin est la seule entreprise en Afrique à faire la seconde transformation, c'est-à-dire faire un produit fini. Donc on rôtit, on sale et on fait le package. Et même Tolaro a ses propres marques, donc va jusqu'au produit fini.
Très bien. Donc avant de rentrer vraiment dans les détails et de prendre des cas d'investissement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de Moringa, comment l'idée t'est venue de créer un tel fonds, est-ce que ça marche, est-ce que ça se développe ?
Alors, je vais expliquer un peu mon parcours, je vais revenir là-dessus. Donc déjà, moi je suis biologiste et ingénieur des forêts, donc de formation. Et en effet, donc depuis tout petit, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les forêts. Et donc mon rêve d'enfant, c'était de travailler à l'Office national des forêts français. Donc je suis arrivé à l'ONF, qui était mon but premier. Mais aussi, j'étais très sensible aux grandes problématiques environnementales. Donc aux grandes problématiques de déforestation, de perte de biodiversité, qui sont essentiellement dans les pays du Sud et qui sont, on va dire, bien sûr qu'il y a des problèmes en France, mais ça n'a rien à voir avec les problématiques en Amazonie, dans le bassin du Congo, en Asie du Sud-Est. Et j'étais très sensible aux questions de réchauffement climatique. Donc j'ai fait un tournant dans mon parcours et je suis parti chez Ernst & Young, donc rien à voir, donc dans leur département développement durable, pour travailler sur comment les entreprises traitent de ces sujets-là, notamment du sujet réchauffement climatique. Donc c'était pour moi une manière importante pour m'approprier ces enjeux-là. En parallèle, j'ai monté une structure, une ONG, qui s'appelle Green Synergy, pour développer des projets dans les pays du Sud. Et donc, à l'époque, on a développé des premiers projets en Indonésie sur les questions de déforestation, avec la Caisse des dépôts, d'ailleurs. On a développé des projets avec le WWF. Enfin, on a développé des projets. Mais, bien sûr, j'avais envie de passer à plus grande échelle et j'ai eu une opportunité. En fait, l'ONF m'a rappelé et m'a proposé d'être directeur du développement de l'ONF International. Donc l'ONF International, c'est la filiale internationale de l'ONF qui travaille depuis plusieurs décennies sur justement l'appui au gouvernement, aux entreprises en matière de gestion de forêts tropicales, notamment en Afrique et en Amérique latine. Et donc mon mandat comme directeur du développement, c'était de structurer de grands projets, d'attirer des financements importants pour financer des activités sur le terrain qui répondent à ces problématiques de déforestation, de perte de biodiversité et de réchauffement climatique. Donc c'était un peu ça la genèse le tout début de Moringa.
Et pourquoi l'ONF s'intéressait aux forêts à l'étranger et à cette thématique ?
Alors c'est historique, Donc la France, il faut savoir que la France aujourd'hui est le pays tempéré qui gère de grandes forêts tropicales. Donc, notamment en Guyane française, on gère de grands massifs forestiers tropicaux. Donc bien sûr, dans des temps plus anciens, avec les colonies françaises, donc la France gérait très grandes forêts tropicales, en Afrique, aussi en Amérique latine, et a acquis une expertise très forte sur le sujet. Donc qui s'est traduit donc par ce bureau d'études, ONF International, qui est l'ancien département international de l'ONF, donc qui a une véritable expertise très pointue, et qui aujourd'hui conseille les gouvernements de ces pays-là en matière pour bien gérer ces forêts, mais aussi conseille les entreprises et les collectivités territoriales qui, sur le terrain, gèrent ces écosystèmes.
Très bien. Et alors Moringa ?
Et donc Moringa, le constat que l'on a eu il y a 10 ans, était que aujourd'hui il y a des vraies solutions sur le terrain, donc des projets qui répondent à ces problématiques-là. Premier constat, donc on parle beaucoup de forêts, mais quelles sont les causes de la déforestation ? Il y en a plusieurs. On peut penser à la gestion forestière elle-même. On peut penser aux infrastructures. Mais en fait, la première cause de déforestation, de très loin, c'est le développement agricole. C'est le défrichement de surfaces forestières pour produire des produits agricoles pour répondre à la demande alimentaire mondiale. Donc quand on réfléchit aux projets à porter pour lutter contre la déforestation, on en vient très clairement à l'agriculture. Et en effet, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu en matière agricole dans ces pays-là. On peut penser au Brésil, on peut penser à l'Indonésie, où on a un modèle agricole très similaire à celui que l'on a fait au XXe siècle en Europe, qui est l'agriculture intensive, qui se développe et qui souvent se fait au détriment des forêts. Et puis il y a d'autres pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie, qui peuvent permettre d'assurer un développement local et de produire, de répondre à la demande alimentaire, mais de manière écologique. Deuxième point, deuxième constat très important, donc premier constat, la cause de la déforestation, c'est l'agriculture. Deuxième constat, c'est la pauvreté. C'est bien sûr, il y a des grandes multinationales qui sont responsables de déboisement, mais à la base, ce sont des fermiers qui sont extrêmement pauvres et qui, pour assurer leur subsistance, sont obligés de déboiser toujours plus. Ils ont des systèmes agricoles très peu efficaces et donc ils déboisent toujours plus pour pouvoir nourrir leur famille.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement déboiser ? Comment ils font ? Ils brûlent, c'est ça, la forêt ? Ils coupent les arbres ?
Alors, il y a plusieurs mécanismes. On va dire généralement on a un phénomène d'exploitation qui commence par une exploitation forestière où on va aller justement tracer des routes pour aller même retirer un arbre à l'hectare, hein, ce qui est très peu, mais voilà, on trace des routes pour pouvoir accéder à ces massifs là et puis des fermiers, des communautés viennent sur ces traces là et puis vont faire un défrichement qui va être progressif. Donc c'est du mitage. Généralement, voilà, le phénomène le plus important, c'est ce phénomène de mitage progressif. Et puis aussi, on a tous en tête des images au Brésil, aussi des coupes rases, où vous avez aussi de grands projets industriels qui eux vont venir déboiser de manière absolument massive des écosystèmes.
Et le mitage ensuite, ils récupèrent les terres qu'ils ont déboisées pour planter. Ce qu'ils veulent dessus ?
Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, historiquement, c'est ce qui s'est passé en Europe, c'est ce qui se passe partout, hein, dans ces pays un peu où la forêt est un écosystème frontière pour se développer. Et donc, en effet, ces populations ensuite viennent s'installer, développer de l'agriculture, on va passer de ce qui était un écosystème naturel à un système agricole avec beaucoup moins de biodiversité.
Et donc les terres utilisées en agroforesterie, ce sont des anciennes terres qui...
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, hein, en matière de politique bien sûr, l'objectif, c'est de conserver un maximum d'écosystèmes forestiers intacts. Même si ce qui est certain aussi, c'est que dans ces pays-là, il y a un vrai besoin de développement et de besoin de développement agricole. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déboisement. Et l'opportunité, elle est qu'il y a beaucoup de terres qui ont déjà été déboisées par le passé, qui sont des terres érodées. Donc on peut penser à toutes ces savanes avec des sols très durs, beaucoup d'érosion. Et aujourd'hui, il y a un gisement de ce type de terre qui est disponible pour assurer ce développement agricole. Ce qui se passe, c'est que c'est plus cher économiquement, c'est plus facile d'aller couper des forêts. En plus, on peut avoir quelques revenus en valorisant le bois. Quand on coupe une forêt, on hérite d'une terre fertile où il y a un humus. Donc c'est beaucoup plus facile que d'aller restaurer une terre dégradée. On sait faire, on connaît les techniques. Donc ces techniques, c'est quoi ? C'est l'agroforesterie, c'est l'agroécologie qui permettent de restaurer ces terres et d'assurer un développement. Mais ça coûte plus cher. Notamment, ça coûte plus cher. Au début, il faut investir dans ces terres pour restaurer une fertilité et permettre aux fermiers d'en vivre.
Ça veut dire quoi exactement, restaurer une fertilité ? C'est planter des arbres, c'est ça ?
Alors, concrètement, il y a des techniques agronomiques qui permettent de restaurer une fertilité de sol. Très concrètement, les arbres jouent un rôle absolument majeur parce que les arbres vont venir s'enraciner dans le sol. Donc les arbres sont très rustiques, hein, notamment un certain nombre d'espèces ont vraiment cette capacité à restaurer des sols qui sont presque à nu, parce qu'ils vont aller chercher, grâce à leurs racines, ils vont aller fouiller dans le sol, ils vont aller chercher les nutriments, ils vont aller chercher les ressources en eau. Certains arbres sont des légumineuses, donc vont capter l'azote de l'atmosphère et le restituer dans le sol. Donc très concrètement, on le voit, nous, sur le terrain, ces systèmes agroforestiers, les arbres, jouent un rôle très important pour restaurer une fertilité, et ensuite ils fixent les sols. Nous, par exemple, on travaille beaucoup en zone sahélienne, en Afrique de l'Ouest, donc où pendant la saison des pluies, il y a une activité biologique très intense et il y a des sols qui se forment. Et ce qui se passe, c'est qu'à la saison sèche, il peut y avoir des vents importants qui vont tout emporter. Les arbres permettent de fixer le sol, donc permettent de créer une fertilité et de la fixer sur place. Donc voilà, ces systèmes agroforestiers, c'est une réponse très concrète pour valoriser ces terres-là, recréer une fertilité et faire en sorte que derrière, des fermiers puissent vivre de cette agriculture et que des entreprises, derrière, puissent aussi développer des modèles économiques viables.
Très bien. Donc toi, tu arrives il y a quelques années, il y a 10 ans, c'est ça?
Exactement.
Il y a 10 ans, avec un constat, avec une idée. Comment tu rends le projet réel?
Alors, il y a 10 ans, il y avait un contexte très favorable sur ces sujets agricoles et forestiers. C'était très lié à la discussion sur le climat. Donc on était à une époque où on parlait du sucre, donc on était pendant le protocole de Kyoto. On parlait de mettre en place un successeur au protocole de Kyoto. Le secteur qui avait été pas écarté, mais qui était très légèrement ignoré par les marchés du carbone de l'époque, c'était les secteurs agricoles et forestiers. Toute l'attention avait été sur les autres secteurs, sur l'énergie, la construction, le transport, qui sont très importants dans la lutte contre le changement climatique. Mais l'agriculture et la forêt, ça représente quand même 30% à peu près des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un secteur qui peut jouer un rôle de pompe, de puits de carbone. Donc c'est un secteur absolument clé. Et il y a 10 ans, on parlait d'intégrer pleinement ce secteur-là au mécanisme de lutte contre le changement climatique. Alors, Copenhague a été une déception. Ça a pris plus de temps que prévu. Mais donc aujourd'hui, on a eu les accords de Paris. Aujourd'hui, le sujet est vraiment revenu sur la table. Et il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'industriels qui s'intéressent à cette question-là. Donc nous, il y a 10 ans, on a fait ce constat-là. On a fait le constat que il y a des solutions sur le terrain qui existent. Il y a des entrepreneurs qui portent des solutions à petite échelle. Il y a des acteurs financiers, des industriels qui s'intéressent à investir sur ces thématiques-là. Donc on est allé voir tous ces acteurs industriels et financiers. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, en France, quelques fonds pionniers se sont montés sur cette thématique-là. Je pense à Altelia. À la base, c'était des anciens de BNP Paribas. Aujourd'hui, Altelia a été racheté par Mirova, qui développe toute une plateforme sur le sujet. On a Livelihoods, donc les fonds de Danone, qui ont été développés sur ces sujets-là. Et alors, nous, on a rencontré Edmond de Rothschild. Donc Edmond de Rothschild, c'est une banque privée, un asset manager, qui a une conviction très forte sur les sujets de durabilité. Et en fait, Edmond de Rothschild a développé une activité de private equity avec une priorité donnée au développement de fonds thématiques sur l'impact. Donc il souhaitait faire quelque chose sur l'agriculture et la forêt. Nous, on avait l'expertise, l'ONFI, sur ces sujets-là. Donc on s'est alliés, on a signé un partenariat en 2010 pour développer ce qu'a été le fonds Moringa.
Qui sont vos investisseurs qui s'intéressent à cette thématique?
Alors, premier travail que l'on a réalisé après avoir signé ce partenariat entre deux acteurs très différents, hein, Edmond de Rothschild et l'ONF International, on a levé des fonds. Et donc, lever des fonds sur l'agroforesterie il y a 10 ans, c'est toujours un challenge aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était encore plus un challenge.
Edmond de Rothschild, qu'est-ce qu'ils apportaient dans la boucle? Ils apportaient des clients, ils apportaient des investisseurs?
Edmond de Rothschild, c'est un gestionnaire de fonds. Vraiment la complémentarité entre l'ONF International, qui est un gestionnaire de projets, et Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild, c'est un gestionnaire de fonds. Et bien sûr, Edmond de Rothschild apporte une crédibilité majeure pour des investisseurs externes, dont on a bénéficié. Donc en effet, on est allé voir 600 ou 700 investisseurs quand même entre 2010 et 2015 pour lever ces fonds. voilà, en présentant ce sujet d'agroforesterie qui à l'époque était très peu connu, ça commence à devenir un peu plus connu, mais à l'époque il fallait beaucoup de pédagogie, et donc on a été très heureux d'avoir convaincu 20 investisseurs. Donc on a levé à peu près un peu plus de 80 millions d'euros. Alors qui sont ces investisseurs? On en a de deux types. On a des banques de coopération, dont c'est le mandat hein, de favoriser ce type d'investissement. Donc on a 7 banques de coopération. Donc par exemple, en France, on a la Proparco, qui fait partie de l'Agence française de développement. On a des multilatéraux, la Banque africaine de développement, la Banque latino-américaine de développement. Aux côtés, donc d'autres banques bilatérales, et puis des investisseurs privés. Alors, qui sont ces investisseurs privés? Ce sont des familles. Nous, on a plutôt des family office, donc des familles, certaines issues du monde de l'agribusiness, qui ont aujourd'hui une volonté très forte d'investir dans des fonds qui, non seulement recherchent à dégager une rentabilité financière, mais aussi font preuve d'impact environnementaux et sociaux.
Donc maintenant que tu as ton argent, comment tu fais? Parce que finalement il y avait pas vraiment de track record, il y avait pas forcément de ça n'existait pas avant. Donc comment tu trouves les sociétés, comment tu fais les investissements, qu'est-ce que tu regardes?
Donc voilà, première phase de fonds, ça a été de lever ces capitaux. Deuxième phase, c'est de déployer. Alors on partait pas de rien. Alors oui, Moringa était vraiment un fonds pionnier, on est le premier fonds au monde dédié à ce type d'entreprise agroforestière. On n'est pas parti de rien parce que justement on bénéficiait d'un écosystème de partenaires. Donc j'ai beaucoup parlé de l'ONF international, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires comme le CIRAD, hein, qui travaille depuis un centre de recherche qui travaille depuis des décennies sur cette thématique-là. Voilà, on a bénéficié d'un écosystème de partenaires qui eux travaillent depuis des dizaines d'années sur ce type de projet et connaissent des entrepreneurs sur le terrain qui ont développé des solutions à petite échelle. Donc on n'est pas parti de rien, donc on est parti de ce deal flow initial de potentielles opportunités. Après, c'est sûr qu'on est extrêmement sélectif. On est quand même sur une stratégie qui est osée et risquée, c'est-à-dire qu'on fait de l'agriculture et pas de l'agriculture conventionnelle, on fait de l'agroforesterie. On travaille en Afrique, on investit en capital dans les sociétés. Donc il faut être extrêmement rigoureux dans la sélection des opportunités. Donc nous, on a réalisé 10 investissements, mais on est parti d'une base de plus de 800 projets. Donc concrètement, c'est énormément de voyages aussi. On a passé beaucoup de temps dans les pays pour aller identifier les bons partenaires sur le terrain et faire un tri extrêmement extrêmement important.
Vous avez des personnes sur place sur vos projets? Comment vous les suivez?
Alors oui, bien sûr. Donc nous, déjà, on s'associe aux entrepreneurs de manière très proche parce qu'on rentre au capital de leur société. On rentre au capital comme actionnaire minoritaire très significatif ou actionnaire majoritaire. Donc voilà, on a un rôle nous-mêmes. Hein, l'équipe est basée à Paris, mais nous-mêmes, on voyage beaucoup pour être vraiment aux côtés des entrepreneurs. Et ensuite, en effet, on recrute des personnes qui vont aller sur le terrain pour être à temps plein aux côtés des entrepreneurs. Alors sur des fonctions précises, ça peut être pour être directeur environnemental et social, ça peut être pour être directeur financier, ça peut être pour être directeur commercial. D'ailleurs, on a pas mal de personnes de l'équipe hein, qu'on a formées, qui ont passé 2-3 ans avec nous pour faire cette sélection des investissements et qui ensuite se sont rendues sur le terrain pour être présents à 100% aux côtés des entrepreneurs.
Pour gérer un projet?
Alors c'est pour gérer une entreprise, hein. J'insiste là-dessus, nous on investit dans des entreprises, et c'est toujours des entrepreneurs locaux, c'est eux qui gèrent leur entreprise, nous on n'est qu'actionnaires, mais ensuite voilà, on a des personnes qui viennent aider, parce que l'enjeu des ressources humaines est une grande problématique dans ces géographies-là, c'est très dur d'avoir les bons ingénieurs, les bons commerciaux, les bons financiers, ces bonnes ressources manquent sur place dans ces pays-là, et donc nous c'est quelque chose qu'on apporte, on va apporter des personnes qui peuvent se rendre sur place et être aux côtés des entrepreneurs.
Et alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un ou deux exemples très concrets des investissements que vous avez?
Alors peut-être deux exemples donc sur deux continents, Amérique latine et Afrique. Notre plus grande opération en Amérique latine est au Nicaragua. Donc on a investi dans une société qui s'appelle Nica France. qui a développé un cluster, on va dire c'est un grand cru de café, qui le modèle a une ferme agroforestière, et ensuite a rénové un peu environ 2000 hectares de fermes de café dégradées. Donc le café est une culture où il y a un vrai marché, mais aussi une vraie problématique, c'est une culture d'altitude, et qui est très sujette aux perturbations climatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de dépérissements et un enjeu de rénovation de ces fermes-là. Donc, on a mis en place un mécanisme financier, donc au niveau de la société. Donc, c'est un investissement qu'on n'a pas fait seul. On a fait avec Oiko Credit, qui est un autre fonds d'impact. Donc, on a investi 15 millions de dollars pour rénover des fermes de café dans le pays, sur ces systèmes agroforestiers. Donc, on a développé donc des systèmes d'ombrage où le café pousse sous couvert d'arbres, ce qui permet d'avoir une meilleure résistance et résilience face à ces perturbations climatiques. L'autre objectif, c'était de développer un grand cru de café, c'est-à-dire, on va parler du modèle économique. Nous, le modèle économique, pour pouvoir être rentable et rentabiliser justement toutes ces bonnes pratiques agroforestières, agroécologiques, toutes ces bonnes pratiques sociales, on fait face à une compétition d'acteurs conventionnels qui développent un café, qui n'ont pas forcément ces bonnes pratiques-là. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est des premiums sur les produits. Donc ces premiums pour rémunérer la qualité des produits, mais aussi toutes ces bonnes pratiques environnementales et sociales. Donc on a signé un partenariat, il y a un peu plus de 2 ans, avec Nespresso, qui eux justement recherchent des grands crus de café sur des origines précises, et donc on a signé un partenariat, et donc la capsule Nicaragua est issue de cet investissement.
Il y a 2000 hectares de café, donc c'est une société qui exploite ces 2000 hectares, ou comment ça, c'est une coopérative, comment ça se passe exactement?
Chaque cas est un peu différent. Dans le cas de Nica France, la société exploite une ferme en propre. Généralement, c'est ce qu'on recherche, c'est que la société dispose de sa propre ferme, qui va être notamment la ferme modèle, où on va pouvoir innover, développer ses pratiques agronomiques avant d'aller les transférer chez des fermiers. Donc, dans le cas de Nica France, en effet, Nica France gère sa propre ferme, et ensuite la rénovation, elle s'est faite chez d'autres fermiers. Alors ça peut être des grands, moyens et petits fermiers, donc où la société va appuyer ces fermiers dans la rénovation de leur ferme. Alors ça veut dire quoi? L'appui technique, ce qu'apporte l'entreprise, c'est toute sa connaissance technique, savoir le bon modèle agroforestier à mettre en place, avoir les bonnes variétés de café, le bon plan de gestion ensuite de cette ferme de café. Le financement, donc la grande problématique, c'est que ces fermiers n'ont pas accès à du financement pour rénover leur ferme, donc la société va apporter ça. Troisième point, le débouché commercial. Donc en effet, ces fermiers n'ont pas accès en direct au marché, ne peuvent pas discuter en direct avec des acteurs comme Nespresso, donc la société va assurer ça et aller négocier pour les fermiers des contrats avec ce type d'acteurs. Donc c'est vraiment un partenariat entre la société et ses fermiers qui peuvent être structurés soit en association, soit en coopérative. Et donc nous, bien sûr, on veut s'assurer qu'il y a un juste partage de la valeur ajoutée entre la société et les fermiers.
Quelles sont les mesures d'impact d'un tel projet? Est-ce que vous regardez, je sais pas, la qualité des sols, le bien-être des agriculteurs, le développement économique de la région?
On regarde tous ces aspects-là. Alors, on a une batterie d'indicateurs. Donc, nous, ce qu'on fait, on a une trentaine d'indicateurs qui sont disponibles publiquement. On publie notre rapport d'impact sur notre site web tous les ans. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des baselines. C'est-à-dire, au moment où on investit, on fait un diagnostic éco-socio-environnemental de l'écosystème dans lequel on va investir, justement pour faire un état des lieux écologique, pour savoir ces fermes, quelle est la biodiversité, quel est le stockage de carbone, quelle est la qualité des sols, un diagnostic social, quel est le revenu de ces fermiers. On essaie de bien comprendre les besoins, parce que souvent on peut faire beaucoup d'erreurs en ne comprenant pas quels sont les vrais besoins de ces agriculteurs. Donc on fait des vrais diagnostics avant de réaliser nos investissements. Et ensuite, de manière annuelle, on va suivre en effet un certain nombre d'indicateurs pour répondre à nos objectifs. Alors on a une batterie d'indicateurs, on en a une trentaine, mais je dirais quels sont nos objectifs? Il y en a, les objectifs environnementaux sont très clairs. Donc nous, notre objectif, c'est, grâce à ces systèmes agroforestiers, restaurer les ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire restaurer les ressources naturelles? Ça veut dire restaurer des sols et des fermes dégradés. Donc là, on va vraiment regarder l'aspect de qualité de sol pour restaurer une fertilité. Deuxième chose que l'on regarde, c'est le sujet réchauffement climatique. Donc l'aspect séquestration de carbone via que permet ces systèmes agroforestiers, séquestration de carbone dans les sols et dans les arbres. Un autre aspect, c'est l'adaptation au réchauffement climatique. Un des bénéfices clairs de l'agroforesterie, c'est que ces systèmes-là, grâce à ces arbres, sont bien plus résistants et résilients face à ces perturbations climatiques. Si je prends l'exemple du café en monoculture peut être sujet à des maladies, il y a une sécheresse, on est en plein soleil, donc la ferme va être impactée directement. Quand on fait du café sous ombrage, les arbres apportent une vraie protection. Vraie protection en matière de diversité, ce qui est une protection contre les maladies et une vraie protection, très claire, face aux perturbations climatiques. Donc on regarde ces sujets-là. Donc sur la partie environnementale, on va s'assurer que ces systèmes agroforestiers génèrent ces impacts-là. L'autre grand objectif, c'est l'objectif social. Et donc là, en effet, on veut s'assurer que ces investissements permettent d'augmenter les revenus, très concrètement, d'augmenter les revenus des producteurs, mais je dirais aussi augmenter leur bien-être. Donc c'est là où aussi on a des indicateurs un peu plus compliqués et détaillés pour s'assurer que vraiment ce type d'investissement répond à leurs besoins, à leurs demandes. Et chaque cas peut être un peu différent.
Est-ce que tu peux nous parler maintenant du deuxième exemple en Afrique ?
Deuxième exemple, on va partir au Bénin. Tolaro, une entreprise de noix de cajou. Un aspect dont j'ai pas parlé, c'est l'aspect du marché. Nous, notre objectif, comme fonds d'investissement, on a donc ces objectifs d'impact très clairs, mais aussi on a un objectif de rentabilité pour nos investisseurs. Et pour nous, c'est essentiel de sélectionner des marchés qui sont porteurs et qui permettent de rémunérer ces bonnes pratiques environnementales et sociales. La noix de cajou, c'est une bonne illustration, c'est un marché très intéressant, c'est un marché qui est en pleine expansion, qui depuis 10 ans a des croissances à 2 chiffres. Pourquoi ? Parce que c'est une noix très bonne pour la santé, qui est meilleure que les autres noix classiques, et donc qui a tendance à remplacer dans le snacking les noix plus conventionnelles. Deuxième chose, c'est une noix qui est plébiscitée dans la cuisine, alors historiquement en Inde, mais de plus en plus par les végétariens et les véganes qui l'utilisent pour cuisiner. Donc on fait du beurre de cajou, du fromage de cajou, donc il y a une demande très forte pour ces produits-là. Premier producteur mondial de noix de cajou, on ne le sait pas forcément, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest donc a développé donc ce qui est intéressant avec cet arbre, l'anacardier, c'est que c'est un arbre très rustique, qui pousse en zone quasi sahélienne, donc en zone très sèche, et qui a une vraie réponse à ce sujet de désertification, d'érosion dans cette zone sahélienne, parce que c'est un arbre qui permet de fixer les sols et de restaurer une fertilité. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est le premier producteur mondial. Ce qui se passe, c'est que plus de 95% des noix sont exportées brutes d'Afrique de l'Ouest en Asie, où elles sont transformées, puis ensuite réexportées vers nos marchés. Donc l'empreinte écologique est assez désastreuse déjà, et en plus la valeur ajoutée, l'essentiel de la valeur ajoutée fuit à l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a quelques entrepreneurs courageux qui ont développé des entreprises en Afrique de l'Ouest pour localiser, pour transformer au niveau local cette noix de cajou. Donc c'est le cas de Tolaro, donc on a investi 8 millions de dollars dans cette société, qui est un pionnier en Afrique de l'Ouest, donc de la transformation locale de noix de cajou. Leur originalité, c'est que pour être rentable vis-à-vis de grands acteurs, ils se différencient donc sur la durabilité. Donc ils travaillent aujourd'hui avec 7000 fermiers. Ils sont certifiés bio, ils sont certifiés commerce équitable. Donc ils ont une usine sur place pour faire la première transformation. Donc pour décortiquer cette noix de cajou, grâce à notre investissement, ce sont les premiers à faire aussi le rôtissage, le lessage, ils ont leur propre marque. Et voilà, c'est la première entreprise en Afrique à faire une noix de cajou 100% transformée en Afrique.
Dans cet exemple, où est le principe d'agroforesterie ?
Le principe d'agroforesterie, donc, il est auprès des 7000 producteurs avec qui Tolaro travaille. Et Tolaro, dans sa mission et sa différenciation, notamment pour accéder à ses certifications, j'ai parlé de la certification bio et la certification commerce équitable, apporte un véritable appui aux producteurs. Un véritable appui pour que les producteurs se structurent, donc notamment, donc là il y a un vrai sujet, un appui donné à la structuration de coopératives, et puis un appui technique dans la gestion des vergers d'anacardiers. Une erreur qui est souvent commise par les producteurs, par manque de connaissances, c'est typiquement de planter beaucoup trop d'anacardiers. Donc on essaimait beaucoup trop d'arbres à l'hectare, on a beaucoup d'arbres, donc beaucoup de production. En fait, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est un peu comme les pommiers, comme les vergers en France. En fait, il faut peu d'arbres à l'hectare, il faut bien les élaguer, et ce qui permet de dégager de l'espace et de conduire des cultures entre ces arbres, donc des cultures alimentaires, ça peut être du soja, ça peut être des tomates, ça peut être des oignons, et qui sont aussi des cultures absolument primordiales pour assurer la sécurité alimentaire de ces zones-là. On est au nord du Bénin, donc on est dans des géographies où il y a un véritable enjeu de sécurité alimentaire. Donc Tolaro apporte un vrai appui à ses producteurs pour qu'ils gèrent leurs fermes de manière agroforestière et optimisée. Et où l'arbre, l'anacardier, va être une source de revenus additionnelle, mais ces fermiers vont ne pas dépendre que du revenu noix de cajou, mais aussi pouvoir développer d'autres cultures, notamment des cultures alimentaires.
Et Tolaro, lui, ne va acheter que les noix de cajou. Ils ne vont pas du tout acheter le soja ou les tomates qui sont en dessous.
Alors, nous, au niveau des sociétés dans lesquelles on investit, notre vision aussi, notre vision d'investisseur et pourquoi on trouve ça intéressant pour des investisseurs d'investir dans des sociétés agroforestières et pas des sociétés qui vont être monoproduits. Ces sociétés qui travaillent avec des fermiers qui développent une variété de produits vont pouvoir... Alors, généralement, ces sociétés ont une majeure, ont une force principale. Dans le cas de Tolaro, c'est la noix de cajou. Dans le cas de Nika France, c'est le café. Mais vont aussi pouvoir valoriser les autres produits de ces producteurs-là. Et donc, nous, on pousse vraiment ces sociétés. Alors, bien sûr, il faut qu'elles soient rentables et profitables sur leur segment de marché, mais à valoriser les autres produits. Et grâce à ça, ça renforce aussi le business model de ces entreprises qui ne dépendent pas d'un seul produit ou sur ces marchés agricoles, il y a quand même des volatilités assez importantes, mais vont pouvoir dépendre de plusieurs produits et selon la volatilité du marché, ajuster le tir et pouvoir avoir un modèle économique qui est beaucoup plus résilient.
Et donc on peut faire peut-être un petit peu de pub, c'est possible d'acheter ces noix de cajou et d'acheter ce café dont tu parlais en France ?
Alors le café complètement, il est disponible dans le commerce, donc la capsule Nicaragua est essentiellement issue de cet investissement-là. Donc tout le monde peut acheter ce café-là, et d'ailleurs il y a toute l'histoire qui est racontée sur le site de Nespresso. Sur la noix de cajou, oui. Mais c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire avec le cas du Nicaragua, on a réussi à vraiment remonter la chaîne de valeur et commercialiser un produit et son histoire. Aujourd'hui, dans le cas de Tolaro, on n'y est pas tout à fait, mais on y est presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tolaro vend ses noix de cajou qui ont une histoire très spécifique. Cette noix de cajou 100% transformée en Afrique, qui est bio, qui est fair trade. Mais aujourd'hui, Tolaro vend ses noix à des traders, donc des négociants, qui eux-mêmes vont vendre à des marques ou des entreprises de la grande distribution. Donc je suis sûr que la noix de cajou de Tolaro se retrouve sur les marchés européens et français, mais vous ne pouvez pas savoir parce qu'elle est mélangée avec d'autres noix, d'autres origines. Donc vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en train de manger une noix de cajou Tolaro. Et nous, on veut monter cette chaîne de valeur. Donc on veut aller plus loin. Donc aujourd'hui, on a une discussion. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec une des grandes marques françaises de noix pour discuter de ça, pour développer un produit qui va vraiment communiquer sur la noix de cajou de Tolaro. Et donc nous, c'est vraiment un point extrêmement important dans notre stratégie. Pourquoi ? Parce que quand vous produisez une commodity, donc un produit qui va être mélangé à d'autres, bah vous perdez un peu la belle histoire, vous perdez un peu l'intérêt, et au final, vous avez un prix qui va être le cours du marché, peut-être avec un petit premium, mais ça va être très dur d'avoir une vraie valeur ajoutée complémentaire. Par contre, si vous vendez un produit fini, avec une vraie histoire, bah là, vous pouvez vendre à un prix bien plus important, et surtout à un prix stable. Quand vous achetez votre noix de cajou dans le supermarché, bah vous payez toujours à peu près le même prix. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'aujourd'hui, il y a une grande crise dans le marché de la cajou, les prix sont au plus bas. Donc le prix consommateur, il ne change pas, or le prix pour les producteurs, il est très bas. Pareil pour le café en ce moment. Donc nous, une partie de la stratégie de Moringa, c'est de se décommoditiser, justement de ne pas vendre une commodity, mais vendre un produit fini, ce qui permet de sortir de cette volatilité des marchés.
Et une fois que tu as fait tes investissements, qu'ils ont réussi, que tu as réussi à créer une chaîne de valeur, tu dois t'en séparer. Comment ça se passe ?
Donc nous, on est un fonds, donc structuré un fonds de 12 ans, qui est une durée de vie plus longue que certains fonds classiques, qui sont sur des durées de vie de 8 à 10 ans. Mais en effet, on doit vendre nos participations. Donc nous, aujourd'hui, on a réalisé nos investissements. Donc on a 10 investissements aujourd'hui, bah ces investissements ont bien avancé en matière opérationnelle, et donc on va rentrer dans une phase de désinvestissement. Donc en effet, on a jusqu'à fin 2024 pour vendre nos participations, et on a enclenché, on est d'ores et déjà en discussion avec des acteurs qui souhaitent racheter ce type d'entreprise.
Et en termes de marché, c'est un bon timing? Il y a une demande importante pour ce genre de société?
Alors, deux choses là-dessus. Toute la stratégie de Moringa est de dire que ce type d'actif, parce que ces entreprises, voilà, une société comme Tolaro, qui a développé un réseau de 7000 producteurs en bio, en commerce équitable, qui a une usine sur place, c'est un actif assez unique. Juste à côté, au Togo, une société qui s'appelle Judelis, qui fait du jus d'ananas bio, pareil, avec un réseau de 500 producteurs. Donc tout ça, ce sont des actifs assez uniques. Et aujourd'hui, dans le marché agroalimentaire, où vous aviez jusqu'à maintenant des acteurs qui étaient plutôt peu impliqués dans l'amont, c'est-à-dire qu'ils investissaient très peu dans l'amont, qui étaient très spécialisés sur le négoce, sur la marque ou sur la distribution. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une dynamique de marché très importante sur le bio, par exemple. On a des taux de croissance extrêmement forts sur les produits bio, et qu'il y a une vraie demande des consommateurs pour ce type de produit et pour la traçabilité. C'est-à-dire pour faire preuve que le produit, savoir d'où il vient, comment il a été fait. Et donc aujourd'hui, ces acteurs-là, ces industriels, s'intéressent à l'amont et s'intéressent pour investir dans l'amont. Quoi de mieux que de maîtriser la chaîne de valeur et de maîtriser la production qu'en investissant dans l'amont. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une tendance de fond qui est très claire de ces acteurs agroalimentaires qui investissent dans l'amont. Donc le type d'actifs que l'on a développé sont des actifs très intéressants pour ces acteurs industriels.
Tu peux nous donner des exemples d'acteurs industriels pour avoir des noms qui parlent à tout le monde ?
Dans le marché alimentaire, les premiers acteurs, ce sont les négociants. Donc les matières premières alimentaires sont achetées par des négociants. Alors c'est des noms qui peuvent évoquer
Cargill.
Donc c'est Cargill, c'est ADM, c'est Bunge, c'est Dreyfus. Donc c'est des noms plus ou moins connus, mais ce sont des géants qui achètent les matières premières agricoles. Donc le premier échelon, quand on est producteur comme nous, c'est de vendre à ces acteurs-là. Ensuite, ces négociants vont vendre soit à des marques, donc pareil, il y a des acteurs absolument géants qui ont des multitudes de marques comme Nestlé, comme Danone, qui ont Unilever, donc ils sont des géants eux-mêmes. Et puis, les autres géants derrière, ce sont les géants de la grande distribution, c'est Walmart, c'est Carrefour. C'est ce genre d'acteurs-là. Donc, en effet, dans le marché alimentaire conventionnel, on a ces grands noms-là. Alors nous, la spécificité, c'est que nous, on travaille sur un marché de niche, qui est le marché des produits bio, commerce équitable, agroforestier. C'est un marché où ces grands acteurs-là vont. Donc certains de ces grands acteurs ont fait de grandes annonces là-dessus, mais c'est aussi un marché qui est beaucoup plus éclaté aujourd'hui. Donc il y a de beaucoup plus petits acteurs. Alors bien sûr, en France, on connaît Biocoop, Naturalia, et puis il y a des négociants aussi dans ce secteur-là. Donc nous, aujourd'hui, on se travaille surtout avec ces acteurs-là. Donc vu que c'est ces produits très spécifiques qui visent plutôt ce segment de marché, donc on est surtout sur ce segment-là. Donc on travaille avec Biocoop, on travaille avec ces acteurs.
Donc tu évites toute la chaîne de production, grosso modo.
C'est notre objectif. Alors c'est une vraie demande du consommateur qui veut des circuits courts, qui veut savoir d'où son produit vient et qui idéalement voudrait acheter son produit au producteur directement. Ce qui est très vertueux parce que ça évite beaucoup de logistique et une empreinte écologique associée. Et puis surtout, ça peut permettre une bien meilleure rémunération du producteur. Donc nous, c'est vraiment notre objectif. Nous, on est du côté du producteur et on essaie de court-circuiter ces acteurs-là et de s'adresser directement aux marques et de s'adresser directement à la distribution. Donc c'est exactement ce qu'on fait.
Donc ça, c'est une tendance. Et ensuite, tu parlais d'une deuxième.
Alors, ça, c'est une première tendance forte. Et donc, il y a des acteurs industriels donc qui peuvent être intéressés pour acquérir, investir dans le type de société que l'on a appuyé. La deuxième grande tendance, c'est du côté des investisseurs. Moringa était un pionnier il y a 10 ans, a monté un fonds d'agroforesterie avec quelques autres pionniers. Aujourd'hui, se structure une classe d'actifs sur le sujet. Un peu comme ce qui s'est passé sur le climat, où il y a une vraie classe d'actifs qui s'est développée, beaucoup de fonds pour investir dans les énergies renouvelables, dans du transport propre, dans de l'habitat, dans la rénovation de l'habitat. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement, donc il y a une classe d'actifs d'investisseurs qui veulent investir dans des sociétés qui ont un impact positif sur la biodiversité. Et quand on regarde les sous-jacents, c'est beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire qui développent l'agroécologie, qui développent un autre modèle d'agriculture. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont lancés. Donc, par exemple, en France, il y a Mirova qui a lancé une grande plateforme, notamment en rachetant un des pionniers qui était Altelia, mais c'est pas les seuls. On a HSBC qui a fait une grande annonce sur le sujet. On a des investisseurs américains qui sont très actifs. Donc, on voit aussi une multitude de fonds qui se développent. Donc, ça crée une classe d'actifs, d'investisseurs qui peuvent être intéressés à racheter et développer ce type d'entreprise. Donc ça crée une liquidité, ça crée des investisseurs secondaires qui peuvent reprendre nos participations. Donc nous, c'est notre vision sur les 4 prochaines années, hein, pour les sorties, c'est de viser à la fois ces acteurs industriels qui ont une raison stratégique de s'intéresser à ces entreprises-là, mais aussi ces acteurs financiers qui ont une demande pour ce type d'actifs.
Et dans 4 ans, tu lances un fonds de 800 millions, donc tu fais x10.
Alors, on va pas attendre 4 ans. Notre priorité aujourd'hui, c'est de bien appuyer les entrepreneurs. Donc nous, l'originalité par rapport à d'autres fonds, c'est qu'on investit donc en capital de ces sociétés-là. C'est-à-dire qu'on est extrêmement impliqué dans la gestion. Donc on est vraiment aux côtés des entrepreneurs pour les appuyer. Ce sont des entreprises complexes qui travaillent avec des milliers de producteurs, qui développent des usines dans des zones rurales très reculées. Il y a un marché qui est très prometteur, mais nos entrepreneurs sont sur le terrain au Bénin, au Mali, et sont pas forcément en Europe, aux États-Unis à courir le marché. Donc nous, on a un vrai rôle d'appui. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est d'appuyer ces entrepreneurs-là. Et le contexte coronavirus, bien sûr, n'aide pas, même si le marché alimentaire est assez préservé. Voilà, on est vraiment aux côtés des entrepreneurs pour qu'ils réalisent leur business plan. Ensuite, la deuxième priorité, c'est de faire de premières sorties, parce que on a d'ores et déjà des réalisations opérationnelles et un impact très clair sur le terrain, mais il faut qu'on démontre le modèle financier, et c'est en faisant de premières sorties qu'on va démontrer ça. Mais on en a certaines de premières sorties en vue. Et donc, bien sûr, le prochain objectif, c'est de développer un nouveau véhicule. Alors, on va pas attendre 4 ans, qui est la fin de vie du fonds. On a d'ores et déjà beaucoup travaillé là-dessus. Il faut le bon timing. En ce moment, la priorité, c'est de bien gérer les entreprises, notamment dans ce contexte coronavirus. C'est de réaliser ses premières sorties. Et on veut faire une annonce là-dessus l'année prochaine ou 2022 ou plus tard sur un véhicule successeur. Et bien sûr, l'ambition, Moringa 1 était un premier véhicule de 80 millions d'euros. L'objectif sera de passer à plus grande échelle maintenant que le secteur a beaucoup mûri.
Ok, quelle est la plus grande difficulté auquel tu fais face en tant que gérant d'un fonds d'agroécologie complètement global? C'est quoi la plus grande difficulté?
Alors, les difficultés sont très nombreuses. Encore une fois, on a une thèse d'investissement très ambitieuse qui développe des systèmes complexes dans des géographies émergentes où on manque de beaucoup de choses. Je raconte souvent ça. Ça a été très dur de lever des fonds. Parce que même s'il y a une tendance sur le sujet, entre la tendance et des investissements concrets, ce sont quand même des discussions extrêmement longues avec les investisseurs qui n'ont pas l'habitude d'investir sur ce type de projet. La deuxième difficulté, ça a été d'investir. Donc, on a réalisé ces 10 investissements, mais ça a été énormément de tri, énormément de travail pour faire ces investissements. Et aujourd'hui, je dirais, on a la plus grande difficulté, c'est la difficulté opérationnelle. Où là, vraiment, ces entrepreneurs sur le terrain développent ces plantations agroforestières à grande échelle, développent ces usines, accèdent au marché et font face à des difficultés opérationnelles très importantes. Alors, quelles sont-elles? On a une volatilité de marché en agriculture, on a une volatilité de prix très importante. Dernièrement, on a eu des chutes des prix sur le café, sur la noix de cajou. Il faut savoir gérer cette volatilité-là. On a une volatilité climatique qui affecte l'agriculture avec les phénomènes El Niño, qui vont impacter, qui créent beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, on a cette crise coronavirus qui est peut-être liée, on ne sait pas, mais qui rajoute. Et donc, il y a un vrai challenge opérationnel pour tenir la promesse, pour réaliser les business plans. Et donc aujourd'hui, notre principale préoccupation et difficulté, c'est d'aider les entrepreneurs pour faire face à tous ces risques-là. Et s'il fallait choisir une aide, un appui, alors bien sûr, nous on fait beaucoup de choses. On apporte de l'appui technique, on a une facilité d'assistance technique en parallèle du fonds pour recruter les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs chercheurs pour aider à la certification, pour appuyer techniquement les entrepreneurs. On aide sur la partie financière pour aider à assurer le financement des entreprises. Mais s'il fallait sélectionner un vrai critère qui est pour nous déterminant, c'est les ressources humaines. En fait, au final, ce qui fait pour nous qu'une entreprise ou qu'un projet va être réussi, c'est la qualité des entrepreneurs sur le terrain. Donc il faut choisir les bons entrepreneurs. Et ensuite, il y a un énorme besoin de formation pour que eux, ces entrepreneurs-là, puissent avoir autour d'eux les bonnes ressources pour réaliser leur business plan. Et quand on travaille au Bénin, quand on travaille au Mali, c'est extrêmement dur de trouver les bons ingénieurs, les bons techniciens, un bon directeur financier. Donc une des grandes difficultés auxquelles on fait face, c'est que ces entreprises accèdent aux bonnes ressources humaines et accèdent au bon niveau de formation pour pouvoir avoir les bonnes équipes, pour pouvoir bien gérer leur entreprise.
Aujourd'hui, la biodiversité est pratiquement à la mode en finance, où tu t'en as parlé. C'est quelque chose qui émerge et qui se développe beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que la finance peut faire pour la biodiversité?
Alors, en effet, aujourd'hui, il y a une dynamique importante sur le sujet, alors que j'essaie d'appuyer aussi via un groupe dédié chez Finance for Tomorrow qui a un groupe dédié à la biodiversité, alors qui est lié à plusieurs choses. Donc la première, c'est que beaucoup d'investisseurs ont investi de manière importante sur le sujet du réchauffement climatique et derrière sur des projets d'investissement dans les énergies renouvelables ou ces secteurs-là. Et puis aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que y a au-delà de ces secteurs industriels, il y a un autre secteur qui est très lié aux problématiques de réchauffement climatique, qui est le secteur de la biodiversité et de la nature. Et donc il y a un intérêt manifeste là-dessus, et puis des dynamiques qui s'enclenchent pour mettre en place des métriques, des méthodologies, des indicateurs pour que ces investisseurs puissent, ces gestionnaires d'actifs puissent appréhender le sujet biodiversité. Et ça, c'est un point qui est très important. Après, ce qui est peut-être encore plus important, c'est les sous-jacents. C'est que au final, il y a un intérêt d'investisseurs pour dans leur portefeuille peut-être sélectionner des entreprises avec un impact positif sur la biodiversité. Donc ça, c'est bien qu'il y ait cet intérêt-là, mais il faut voir derrière quels sont les sous-jacents. Et en matière de sous-jacents, c'est quels sont les modèles économiques qui permettent à ces entreprises de développer un modèle positif sur la biodiversité qui va être aussi, voire plus rentable qu'un modèle conventionnel. Et là, je pense qu'il y a deux choses intéressantes. Il y a une dynamique sur les premiums de prix, c'est-à-dire les consommateurs souhaitent avoir un produit qui ne crée pas de déforestation, voire qui ait un impact positif, qui soit bio, qui soit en agroécologie, et est prêt à payer un premium là-dessus. Donc ça me semble être une dynamique très positive. Et je pense une dynamique qui va amplifier ça, c'est la traçabilité. Je pense que les consommateurs de tout temps n'ont jamais voulu consommer un café ou du soja qui fait de la déforestation, mais on le savait pas. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont se mettre en place pour créer de la transparence sur les filières. Il y a des outils satellites, des systèmes qui se mettent en place pour qu'on ait accès à l'information. Donc ça, c'est une dynamique importante. Deuxième dynamique, c'est la rémunération des services environnementaux. Donc ces systèmes agricoles et forestiers qui ont un impact positif sur la biodiversité et le réchauffement climatique, jusqu'à maintenant n'ont pas bénéficié de rémunération réelle pour ça. Alors cette rémunération peut venir par un premium sur les prix, mais aussi par des crédits de compensation, des crédits de compensation carbone et des crédits de compensation biodiversité. Alors ça fait 20 ans qu'on en discute. Mais aujourd'hui, il y a une vraie dynamique sur le sujet. Il y a une vraie dynamique. De grands acteurs industriels ont annoncé vouloir être carbone neutre d'ici 2050. La Chine a annoncé un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. L'Europe, les États-Unis peut-être demain. Donc ça va pouvoir potentiellement créer un marché très important pour ce type de crédits qui vont pouvoir renforcer le modèle économique de ces investissements.
Merci beaucoup Clément pour cet échange très riche et bon courage pour la vente de tes participations et le lancement d'un prochain fonds peut-être.
Merci beaucoup et bravo pour cette initiative de podcast.
Je remercie une nouvelle fois Clément Chenot, directeur de Moringa, de s'être prêté au jeu des questions-réponses. Ça m'a donné envie d'aider les producteurs agroforestiers. Je vais essayer de faire encore plus attention à ce que je mange et au mode de production des produits que j'achète. Bravo à Clément d'avoir été visionnaire il y a 10 ans et d'avoir pris le risque de se lancer dans cette aventure. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.